Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 15 janvier 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le président du Gabon, Ali Bongo, est de retour à Libreville après une absence de 2 mois.
En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle doit commencer à examiner aujourd'hui le recours de l'opposant Martin Fayulu contestant les résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier.
La Cour pénale internationale doit se prononcer aujourd'hui sur la demande d'acquittement ou de libération provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.
Au Zimbabwe, plusieurs personnes ont été tuées hier dans de violentes manifestations contre la forte hausse du prix du carburant.
Washington et Ankara discutent de la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le président Ali Bongo Ondimba est de retour à Libreville où il doit présider aujourd'hui la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement. Le dirigeant gabonais qui était en convalescence à Rabat au Maroc vient de passer 2 mois à l'étranger à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime à Riyad en Arabie Saoudite le 24 octobre dernier. Pour plus de détails, notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
C'est confirmé, selon son entourage, Ali Bongo Ondimba est bien de retour au Gabon. Le retour du chef de l'État gabonais s'est fait sans tambour ni trompette, c'est-à-dire aussi discret que possible. La nouvelle divulguée lundi, sans doute par les sources proches du palais du bord de mer à Libreville, a d'abord fait le tour des réseaux sociaux avant d'être relayée par les médias locaux et internationaux. Et c'est encore le branle-bas sur la toile où, depuis de nombreuses heures, les pro-pouvoirs et les plus sceptiques, certainement parmi les partisans de l'opposition radicale, se livrent à une bataille de communication en attendant de voir de visu Ali Bongo Ondimba, donné pour mort selon plusieurs sources, pas souvent crédibles. Le retour au pays du numéro 1 gabonais dicté par les impératifs de l'article 15 de la Constitution adoptée en janvier 2018, qui stipule qu'avant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, celui-ci doit prêter serment devant le chef de l'État. Cela sous-entend que le gouvernement, désormais dirigé par Julien Corbet-Calé, qui a remplacé Emmanuel Issoze-Ngondé, nommé médiateur par décret présidentiel, ne devrait rendre compte qu'au seul président de la République qui détient le mandat du peuple. Ce mardi, Ali Bongo Ondimba présidera son tout premier conseil des ministres de l'année, sitôt après ce rituel de prestation de serment du gouvernement nouvellement formé. Libreville, Ismaël Obiangze pour la Voix de l'Amérique.
La santé du président gabonais alimente les spéculations dans son pays en l'absence d'informations officielles détaillées sur le sujet. Lundi dernier, une tentative de coup d'État vite matée a eu lieu au Gabon. Les putschistes avaient entre autres justifié leur action par les conséquences de l'état de santé du président Bongo Ondimba sur la gestion du pays.
En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle doit commencer à examiner aujourd'hui le recours contestant les résultats de la présidentielle du 30 décembre, introduit par l'opposant Martin Fayulu qui espère rétablir ainsi ce qu'il a appelé la vérité des urnes. Précision d'Irénée Herman Ungo.
Selon Baudouin Mouehou, attaché de presse au cabinet du président de la Cour constitutionnelle congolaise, l'examen du recours de Martin Fayulu débutera à partir de 8h30 GMT. Il précise que les audiences devraient être publiques et radio-télévisées. Monsieur Fayulu conteste les résultats provisoires publiés par la CENI, qui a proclamé Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle avec 38,57% des voix, le créditant lui de la deuxième place avec 34,8% des suffrages. Il dénonce un putsch électoral du président sortant Joseph Kabila avec la complicité de Monsieur Tshisekedi et revendique la victoire avec 61% des voix. Ce que nous attendons de la Cour constitutionnelle, c'est le rétablissement de la vérité des urnes, a déclaré hier Albert Fabrice Pouella, l'un des avocats de M. Fayulu. L'Église catholique avait mis en doute le résultat annoncé par la CENI. La SADC, de son côté, a suggéré dimanche un recomptage qui permettrait de rassurer tout le monde, une idée soutenue par le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders. Si ce recomptage est une décision de la Cour constitutionnelle, l'UDPS l'acceptera, mais nous n'entendons pas que ce comptage soit imposé par des États étrangers, a répondu Vidi Chimanga, porte-parole de Félix Tshisekedi.
La Cour pénale internationale doit se prononcer ce mardi sur la demande d'acquittement ou de libération provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité. Les juges de la Cour de La Haye rendront à 10h temps universel cette décision très attendue sur le sort de M. Gbagbo, 73 ans, en détention depuis 7 ans. Son procès pourrait s'arrêter là avec un acquittement ou se poursuivre. La CPI doit également se prononcer sur la demande de libération provisoire de Charles Blé Goudé, 47 ans, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à l'ancien président Gbagbo.
Nouvel accord de pêche entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Il permettra, cet accord, aux pêcheurs sénégalais de poursuivre leurs activités dans les eaux territoriales bissau-guinéennes. Eric Manirakiza.
Le protocole signé hier à Bissau est la prorogation de l'accord d'avril 2016. Il prévoit l'octroi de 300 licences aux pêcheurs artisanaux sénégalais et de 10 licences pour la pêche industrielle du thon. D'après Omar Gueye, ministre sénégalais de la pêche, l'accord offre des conditions propices à un développement harmonieux pour une croissance durable dans le secteur de la pêche et donne un cadre légal et sécurisé pour les acteurs sénégalais de ce secteur. Dakar et Bissau ont également convenu qu'une partie des prises serait acheminée en Guinée-Bissau pour alimenter le marché local. Une surexploitation de la ressource a entraîné la rareté du poisson et les pêcheurs sénégalais sont de plus en plus dépendants des pays voisins comme la Mauritanie et la Guinée-Bissau. Ces accords bilatéraux n'ont pas empêché des incidents malheureux entre des pêcheurs sénégalais et des gardes-côtes mauritaniens. Maintenant, tout semble rentrer dans l'ordre car Dakar a signé un accord de pêche similaire avec Nouakchott.
Dans l'extrême nord du Mozambique, une dizaine de civils ont été tués en une semaine dans des attaques attribuées aux islamistes. Le point avec Raissa Girondin.
Quatre passagers d'un véhicule ont été tués samedi et quatre autres blessés alors qu'ils circulaient près de Manila, non loin de la ville de Mocimbo da Praia. Le 6 janvier, sept personnes ont été assassinées dans des circonstances similaires à Ulumbi. Leur bus a été intercepté par un groupe d'hommes armés qui ont incendié le véhicule et pris la fuite. Une autre personne a été assassinée et découpée en morceaux près de Nailoa. Depuis plus d'un an, un groupe connu sous le nom de Shabab, qui signifie « jeune » en arabe, multiplie les attaques contre les villages de la province de Cabo Delgado. Plus d'une centaine de civils ont été tués et des milliers contraints de quitter leur maison. Le président Philippe Nyusi a réitéré sa volonté de neutraliser ces islamistes. Près de 200 personnes soupçonnées d'appartenir à ce groupe sont jugées actuellement à Pemba, chef-lieu de la province. Cette rébellion inquiète Maputo et les groupes pétroliers qui ont commencé à s'installer dans la région pour exploiter de grands gisements de gaz offshore.
Au Zimbabwe, plusieurs personnes ont été tuées hier dans de violentes manifestations contre la forte hausse des prix du carburant décrétée par le président Emmerson Mnangagwa. Et ce, dans un pays au bord de l'explosion sociale pour cause des crises économiques et financières. Au premier jour d'une grève générale de 3 jours, la police est intervenue pour disperser des centaines de personnes qui ont bloqué les routes et pillé des commerces dans les deux plus grandes villes du pays, Harare et Bulawayo, paralysant largement l'activité. D'importants effectifs de l'armée ont été déployés dans plusieurs quartiers de ces deux villes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump, obligé de nier avoir travaillé pour la Russie. « Je n'ai jamais travaillé pour la Russie », a-t-il lâché hier, en réponse à une question d'une consoeur de la chaîne NBC. Des détails avec Abdourahman Dia.
Non seulement je n'ai jamais travaillé pour la Russie, mais je pense que c'est une honte que vous posez cette question, a lancé hier à la presse le président Trump. Selon le New York Times, l'enquête du FBI, la police fédérale américaine, a fusionné avec celle du procureur spécial Robert Mueller sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de M. Trump. Les gens qui ont lancé cette enquête l'ont fait, j'imagine, parce que j'ai limogé James Comey, ancien patron du FBI, a ajouté M. Trump. Par ailleurs, aurait-il cherché à dissimuler les détails de ses conversations avec son homologue russe Vladimir Poutine? Le président américain affirme que c'est beaucoup de fake news. Ce fut une rencontre couronnée de succès en référence au sommet d'Helsinki avec M. Poutine en juillet 2018. Le Washington Post rajoute qu'il n'y a aucun rapport détaillé de ces échanges avec M. Poutine en 5 endroits différents ces 2 dernières années. À l'issue d'une rencontre à Hambourg en 2017, le président Trump aurait même pris possession des notes de son interprète, lui demandant de ne pas partager la teneur de la conversation. Donald Trump a toujours nié toute collusion avec la Russie et qualifie régulièrement l'enquête de M. Mueller de chasse aux sorcières.
Toujours à Washington, le président Trump, selon la Maison-Blanche, a exprimé dans un entretien téléphonique hier avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan le désir d'œuvrer ensemble pour tenir compte des préoccupations sécuritaires de la Turquie dans le nord-est de la Syrie, tout en soulignant l'importance pour les États-Unis que la Turquie ne maltraite pas les Kurdes ou les autres combattants des FDS qui ont aidé à défaire les djihadistes du groupe État islamique.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Gabon va bénéficier de 40 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour l'agrandissement du terminal de marchandises du nouveau port d'Owendo au sud de Libreville. Les travaux porteront sur l'extension du quai de 380 mètres additionnels ainsi que le développement de logistique pour offrir aux usagers un service plus compétitif. Cette infrastructure offrira au Gabon une nouvelle porte maritime, accélérer aussi les échanges et générer plusieurs milliards par an. Le premier producteur mondial de diamants, le russe Alrosa, va s'implanter au Zimbabwe pour y développer des nouvelles opérations d'extraction minière. Cette société se dit prête à partager ses technologies afin que le Zimbabwe se fasse une place dans le marché mondial du diamant. D'ici février, des géologues et des ingénieurs des mines russes arriveront au Zimbabwe pour lancer les opérations. Alrosa, qui affirme produire 27% du diamant mondial, dispose déjà d'activités en Angola et au Botswana. Terminons avec France Télévisions qui veut supprimer 1000 postes nets d'ici fin 2022 dans le cadre de son projet de rupture de la convention collective. La direction et les syndicats ont commencé hier les négociations. Selon la direction générale, les départs se feront uniquement sur la base du volontariat afin de réduire et renouveler ses effectifs.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'avenir du football mondial se discute aujourd'hui à Marrakech, au Maroc.
Oui, plus de 80 présidents et secrétaires généraux de fédérations vont prendre part à ce sommet de la FIFA prévu pour se tenir du 15 au 17 janvier. À Marrakech, plusieurs sujets feront l'objet de débats. Au micro d'Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca, le président de la FIFA revient sur le menu de ce sommet. Écoutons Gianni Infantino.
On va parler de la Coupe du Monde des clubs. Le Maroc avait hébergé 2 éditions de la Coupe du Monde des clubs il y a quelques années et on voit qu'il faut faire quelque chose pour l'améliorer. Il faut aussi avoir un œil sur nos associations nationales et donc il faut qu'on parle aussi un petit peu des compétitions pour les équipes nationales. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du calendrier international pour améliorer la qualité des rencontres et des compétitions au niveau des sélections. En même temps, on discutera aussi de la Coupe du Monde 2022 parce que à partir de 2026, il y aura 48 équipes, comme vous savez bien. Peut-être qu'on arrive déjà à avancer l'échéance et commencer déjà en 2022 avec 48 équipes. On écoutera nos associations pour voir un petit peu ce qu'elles en pensent. Et puis, les autres sujets, c'est le football féminin qui est toujours une priorité pour la FIFA. C'est l'arbitrage, le VAR en particulier. Tous les sujets d'actualité qu'on va débattre ici avec nos fédérations. Non.
C'était donc le président de la FIFA, Gianni Infantino.
Corentin Martins se prolonge avec la Mauritanie.
Le technicien français a apposé sa signature pour un nouveau bail de 2 ans. Arrivé en 2014, Corentin Martins a réussi l'exploit de qualifier la Mauritanie pour sa première phase finale de Cannes cette année en Égypte. C'est la deuxième fois qu'il prolonge son contrat à la tête des Mourabitounes après janvier 2017.
Tennis, Djokovic et Serena Williams entrent en lice aujourd'hui à l'Open d'Australie.
Oui, le numéro 1 mondial septuple vainqueur de l'Open d'Australie et Serena Williams sacrée 7 fois sont les principales têtes d'affiche de la deuxième journée ce mardi à Melbourne. Sur la Rod Laver Arena, Novak Djokovic, qui vise une 3e victoire de rang en Grand Chelem après ses succès à Wimbledon et l'US Open, entre en compétition face à l'Américain Mitchell Krueger. Un peu plus tôt, sur le même cours, Serena Williams, qui reste sur 2 finales en tournoi majeur, fera ses débuts contre l'Allemande Tatjana Maria. La numéro 1 mondiale Simona Halep commencera, elle, son tournoi face à l'Estonienne Kaia Kanepi. Nous restons dans l'espoir de mai pour finir avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière ici en NBA.
Brooklyn et Boston 109 à 102, Houston et Memphis 112 à 94, Charlotte et San Antonio 108 à 93, Utah et Détroit 100 à 94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo va donc commencer à examiner ce mardi le recours contestant les résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, introduit par l'opposant Martin Fayulu. Déjà hier, à Kinshasa, on avait enregistré des réactions à l'appel de la SADC à recompter les voix de la présidentielle d'une part, et à la formation par toutes les parties prenantes d'un gouvernement d'union nationale de l'autre. Mais la majorité de la classe politique congolaise, ainsi que des personnes interrogées dans la capitale, préfèrent plutôt s'en remettre à la Cour constitutionnelle. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À la coalition Lamuka, on est catégorique. Pas de gouvernement d'union nationale tant que la vérité des urnes ne sera pas rétablie. Steve Kivuata est porte-parole du candidat Martin Fayulu.
Nous ne pouvons pas faire une coalition sur le pied de la violation de l'expression du peuple congolais, de la violation de la vérité des urnes telle que exprimée le 30 décembre 2018. Il ne sera jamais question, tant que la vérité des urnes n'a pas éclaté, que la coalition Lamuka soit dans un gouvernement d'union nationale.
Au Front commun pour le Congo, on s'en remet plutôt à la justice pour régler le contentieux électoral. Ferdinand Kambere, cadre du FCC, juge irréaliste la proposition de la SADC.
Qu'un vœu vienne d'un observateur électoral du niveau international, je crois que ça sera recueilli par la Cour. Mais la Cour, s'il y a recomptage à faire, il doit y avoir une demande. Et une demande doit venir plutôt soit du candidat, soit des partis politiques qui a postulé. Parce que pour agir en justice dans notre pays, il faut avoir un intérêt. Chez nous, la loi ne reconnaît pas un observateur de saisir directement la Cour pour obtenir ce recomptage-là.
Jolino Makelele, le porte-parole adjoint de Cap pour le changement de Félix Tshisekedi, affirme quant à lui que cette proposition est une fausse nouvelle qui ne vient pas de la SADC.
Nous, au niveau de CASH, dont je suis le co-porte-parole, je peux vous dire que cette nouvelle nous a beaucoup surpris. Et d'ailleurs, après qu'elle nous ait surpris désagréablement, nous avons pris les contacts nécessaires qui nous ont fait comprendre que c'était une fausse nouvelle. Et donc, nous avons eu, pour ne pas nous départir de l'obligation de réserve qui doit être la nôtre en pareille circonstance, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères d'un pays très proche, membre de l'Espadé, qui a dit qu'ils n'ont jamais dit des choses comme celle-là.
Les Kinois interrogés à ce sujet estiment que malgré la proposition de la SADC, seule la Cour constitutionnelle a compétence en la matière.
Comme il y a déjà contestation, il faut que la Cour constitutionnelle puisse trancher. Et s'il y a recompte de voix et que Martin Fayulu renverse la situation, ça sera une bonne chose. Et si cette opération faisant en sorte que la réussite restait quand de Félix Tshisekedi, ça sera aussi une bonne chose.
Donc, la proposition de recompter les voix soutient la thèse du candidat malheureux Martin Fayulu. Moi, je crois que la SADC souhaite embraser de plus en plus RDC.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, plus de 6000 habitants de la région de Yirgu dans le centre-nord vivent désormais dans des camps de déplacés. Il s'agit essentiellement de femmes et d'enfants de l'ethnie Peul, des rescapés de la tuerie du 1er janvier qui a visé leur communauté et coûté la vie à 49 personnes. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, s'est rendu sur le site d'accueil de Barsalogo. Son reportage.
Nous sommes à Barsalogo, à 65 km de Yirgu, dans le centre-nord. Une centaine de tentes, toutes blanches, dressées. Au moins 1000 déplacés, des peuls, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées qui ont quitté la région de Yirgu pour se réfugier ici. Le 1er janvier, après une attaque armée, les peuls ont été ciblés par des villageois Mossi, aidés par des membres de leur groupe d'autodéfense. Reynatou Diallo, une déplacée, s'y rappelle.
Les Kogloweigo sont venus incendier nos campements. Nous n'étions pas au courant. Ils ont tué nos hommes. Il ne reste que nos poules. Ils ont incendié nos cases et nos aliments. Ils ne cherchaient à tuer que des peuples.
Dans ce camp, un centre de santé, une équipe de psychologues, des ONG et bien sûr des agents de sécurité. Mais ici, tout n'est pas au point. Alimata Diko, déplacé.
Ici, nous nous débrouillons. On trouve à manger, même si cela n'est pas très régulier. J'ai des enfants. J'ai un qui est malade. Je l'ai amené au centre de santé. Mais jusque-là, ça ne va pas.
Bassirou Zagré est l'un des deux responsables du site. Il reconnaît que tout n'est pas encore en place. Et cela rend l'assistance difficile.
Il manque de l'éclairage sur ce site. Des matériels de cuisine, les marmites, les plats, les couvertures, les nattes. On en a reçu, mais si on gagne encore, ça va nous aider.
Les agents de santé sont débordés. Certains de ces déplacés ont erré des jours dans la brousse avant d'arriver ici. Beaucoup ont vécu des scènes d'horreur perpétrées par les Kogloweigo. Pour Dr Claude Kouderi, responsable santé sur le site, la plupart des déplacés ont besoin d'une véritable prise en charge psychologique.
Lorsque vous avez assisté à une scène où tu vois un proche qu'on t'enlève brutalement dans certaines conditions, ça ne peut que sur le plan psychologique déranger. Vraiment, sur le plan psychologique, là, il y a vraiment une atteinte. Et il y a des cas vraiment qui nécessitent une prise en charge médicale.
Deux semaines après ces violences qui ont fait près de 50 morts, essentiellement des peuls, aucune arrestation n'a été opérée. Les Kogloweigo règnent toujours en maître à Yirgu. Dans ces conditions, un éventuel retour à Yirgu est-il possible?
Non, et non, et non.
Yacouba Diandé est le porte-parole de ces déplacés à Barsalogo.
Le même problème qui nous a sassé à venir ici, le même problème est toujours là-bas. On ne peut pas retourner comme ça et sans que la situation se change. Les gens qui nous ont sassés là, ils sont toujours là-bas, avec les figis, avec les has, avec les coupoupes, ils sont très nombreux.
Le centre de Barsalogo est l'un des quatre sites déployés pour les déplacés de la tuerie de Yirgu. Selon le gouvernement, plus de 6000 personnes vivent dans ces camps. Lamine Traoré, Barsalogo, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le Sénégal dispose désormais d'un train express régional qui fonctionne au courant électrique. Une infrastructure d'un coût global de 568 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement a contribué à hauteur de 197 milliards de francs CFA. La coopération française, 133 milliards. La Banque africaine de développement, 120 milliards. Et l'État du Sénégal, 124 milliards. Le TER va répondre aux besoins des déplacements d'environ 124 000 passagers. En outre, il va générer 6 000 emplois directs et indirects. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagay.
À Dakar, le président Macky Sall a procédé à la réception du train express régional et à l'issue du premier trajet, il a tenu à préciser que cette infrastructure a été réalisée pour le bien-être des Sénégalais.
Les Sénégalais et les Sénégalaises méritent de voyager dans le confort et la sécurité en maîtrisant leur temps avec un système de transport de masse répondant aux meilleurs standards internationaux. Le TER est conçu pour répondre à ce besoin en assurant des liaisons rapides, ponctuelles et régulières.
Pour l'exploitation du train express régional, la main-d'œuvre locale a été privilégiée et le constructeur français a déjà formé des Sénégalais dans ce sens, comme l'indique Raphaël Bernard Dely, directeur Alstom Afrique du Nord et Afrique centrale.
Nous avons recruté 7 techniciens sénégalais que nous avons envoyés en France
en formation dans notre usine qui produit les trains. Et donc cette équipe a été formée localement pour acquérir toutes les compétences pour assurer les prestations ensuite localement une fois que les trains sont arrivés au Sénégal. Donc comme vous le savez, la première rame est arrivée le 18 novembre et donc l'équipe était déjà là effectivement pour recevoir les rames, les réassembler, refaire les tests et puis maintenant assurer le bon fonctionnement des rames.
Du côté des populations, on se réjouit de la mise en place d'une telle infrastructure. Le vieux Touré estime que cela va faciliter la mobilité des populations.
Ah, c'est M. Touré. Ben, je trouve que c'est un bon projet. On doit soutenir le gouvernement sénégalais dans ce programme-là. Parce que ça faciliterait le déplacement de la population. Et puis, ça va un peu désengorger avec s'il y a la discipline dans la circulation et les routes aussi. Parce que les populations qui n'ont pas de moyens de la haute banlieue et ses environs, de pouvoir se déplacer facilement pour rejoindre le centre de la ville.
Certains des riverains du train express régional craignent, eux, pour la sécurité de leur famille. El Hadj Ndiaye espère que des dispositions seront prises pour éviter des accidents.
Ils ont dit que le TER passe sur des rails électriques et nous craignons pour la sécurité de nos enfants parce que c'est difficile de les contrôler. C'est l'État qui doit prendre des mesures et le plus tôt sera le mieux.
Le train express régional devrait commencer les trajets commerciaux dans 6 mois. En attendant, des séries de tests sont prévues pour que les populations s'adaptent à cette nouvelle infrastructure. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Transport toujours du bambou pour réparer de vieilles bicyclettes. Un entrepreneur ougandais s'est créé un créneau écologique lui permettant de gagner sa vie et même d'employer d'autres personnes. Le reportage d'Arash Arabasadi, repris ici par Lionel Gahima.
Dans son atelier, Nourdine Kassoma inspecte ses produits finis. Des bicyclettes au cadre reconstruit à l'aide du bambou. Il est satisfait. Les engins sont prêts à la vente.
Rouler en bicyclette de bambou, en particulier sur les pistes, est très confortable. Le bambou est flexible, ce qui lui donne une capacité d'absorption des chocs, particulièrement en terrain accidenté. Le bambou absorbe les vibrations qui se transmettraient normalement au cadre en acier ou en aluminium du vélo.
Kassoma a appris à fabriquer des bicyclettes en bambou auprès d'un Américain. Il s'est aussi formé en regardant des vidéos sur Internet. Son désir, a-t-il expliqué, était de fabriquer des bicyclettes plus abordables que celles de marques traditionnelles. Les bicyclettes en bambou lui ont semblé une bonne opportunité.
Je pense que c'est une option moins onéreuse que si vous importiez un cadre de vélo en carbone. Avec les taxes et autres, vous payeriez l'équivalent du prix de 2 bicyclettes en bambou.
La fabrication d'une bicyclette en bambou prend 1 semaine dans l'atelier de Kassoma et l'engin coûte entre 350 et 400 dollars, ce qui lui permet d'employer 20 de personnes ainsi que de jeunes apprentis.
Nous recevons des schémas de bicyclettes des différents types et des différentes tailles. Nous fabriquons normalement des vélos tout-terrain, des vélos de ville et de voyage. Et nous en avons aussi des vélos de course.
Nourdine Kassoma dit avoir porté son choix sur le bambou parce que c'est une plante à croissance rapide, disponible partout. Il projette d'agrandir son atelier et espère populariser le tourisme à vélo en Ouganda.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez à la
en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.